Nous allons maintenant approfondir l'étude de la vapeur d'eau, car elle est souvent méconnue. Le choix de l'eau se justifie, car c'est sans doute le seul fluide de travail condensable dont tout le monde a une connaissance concrète. Des trois phases de l'eau, la vapeur est de loin la moins bien comprise, car elle est invisible et inodore. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est la glace ou l'eau liquide pour en avoir fait l'expérience de nombreuses fois, mais la vapeur est beaucoup moins bien perçue, au point que certains peuvent être amenés à douter de son existence ou du moins à s'en faire une conception erronée, ce qui handicapera leur compréhension des machines thermiques à fluide condensable. La difficulté est que la vapeur d'eau ne se manifeste pas de manière directement perceptible par nos sens, si ce n'est par le toucher quand on reçoit un jet de vapeur sur la peau. C'est le plus souvent de manière indirecte que nous percevons la vapeur d'eau, du fait des manifestations de ses interactions avec l'air et les surfaces froides qui nous entourent. Quelques explications sur ces phénomènes vous permettront de vous faire une idée plus juste de ce qu'est la vapeur d'eau et par suite les autres vapeurs dont nous serons amenés à parler. La vapeur d'eau est pourtant très présente dans notre environnement quotidien sous le nom abrégé de vapeur. Les diététiciens vantent les vertus de la cuisson à la vapeur qui est réalisée en disposant dans une casserole fermée par un couvercle un panier légèrement surélevé par rapport au fond dans lequel sont placés les aliments à cuire au-dessus d'une petite quantité d'eau. Pendant la cuisson, l'eau entre en ébullition et la vapeur dégagée emplit l'espace disponible dans la casserole, se condense en partie sur la casserole et cuit les aliments qui en sont imprégnés. Les deux phases liquide et vapeur sont bien présentes dans la casserole, mais comme celle-ci est fermée et que la vapeur est invisible, on ne l'aperçoit pas directement. La vapeur se manifeste aussi lors des cuissons par autocuiseur ou cocotte minute par le jet qui traverse la buse et qui est partiellement visible. Nous reviendrons un peu plus loin sur cet apparent paradoxe. La vapeur est communément utilisée pour le repassage, les semelles des fers à repasser modernes disposant d'orifices permettant de vaporiser de la vapeur d'eau pour humidifier à chaud le linge à repasser, dont elle améliore le traitement sans risquer de laisser des marques. Les bricoleurs ayant rénové des logements auront peut-être eu à employer une décolleuse pour détacher le papier peint des murs, ce qui facilite énormément la tâche, la vapeur étant diffusée là aussi par des trous dans la semelle de l'appareil. Les adeptes du sauna ou du hammam apprécient les bains pris dans une atmosphère saturée d'humidité apportée par de la vapeur injectée dans l'air ambiant, ce qui stimule la sudation. Enfin, en période hivernale, la vapeur présente dans l'air intérieur des logements donne lieu à des condensations sur les parois froides qui peuvent se traduire par des désordres du type développement de moisissures. L'interaction de la vapeur avec l'air est un phénomène complexe qui mérite quelques explications. L'air sec est un mélange d'oxygène, 23% en masse, d'azote, 76% en masse, et de certains gaz comme l'argon et le CO2 en proportion infime, environ 1% en masse. Mais l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais. Il comprend presque toujours de l'eau sous forme gazeuse, liquide ou de cristaux de glace. La thermodynamique des mélanges humides permet d'étudier les propriétés de l'air réel qui comprend toujours une part d'humidité. Lorsqu'on s'intéresse à un mélange humide, on a affaire à un mélange de gaz qui ne se condense pas, que l'on appelle le gaz sec, et d'eau susceptible de se condenser. Tout se passe en quelque sorte comme si le mélange humide était un mélange de deux corps, le gaz sec dont la composition est invariable et l'eau susceptible de se présenter sous une ou plusieurs phases. Deux grandeurs servent communément à caractériser l'humidité d'un mélange humide. L'humidité spécifique W et l'humidité relative epsilon, plus communément utilisée par le grand public. On appelle humidité spécifique ou absolue W le rapport de la masse d'eau contenue dans un volume donné de mélange humide à la masse de gaz sec contenue dans ce même volume. Cette courbe montre la valeur de l'humidité spécifique de l'air saturé d'eau exprimée en grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Elle varie considérablement en fonction de la température. À 20 degrés Celsius, l'air saturé contient environ 15 g d'eau et à 60 degrés Celsius, environ 10 fois plus. Lorsque la quantité d'eau présente dans l'air dépasse l'humidité spécifique de l'air saturé, la vapeur d'eau en excès commence à se condenser sous forme de brouillard ou sur les parois froides qui délimitent le système s'il en existe. C'est ce phénomène qui permet de visualiser indirectement l'existence de la vapeur d'eau dans de nombreuses situations. Dans cet exemple, un brouillard se forme au-dessus de la casserole contenant de l'eau en ébullition, car localement, la teneur en eau de l'air est plus élevée que l'humidité spécifique de l'air saturé. Rappelons que la mol est l'unité du système international qui permet de mesurer le nombre de molécules dans un système et que la fraction molaire d'un constituant est le rapport du nombre de moles de ce constituant dans le mélange au nombre total de moles du mélange. Rappelons aussi que la pression partielle PI d'un constituant est la pression qu'exercerait ce constituant s'il occupait seul le volume V du mélange, sa température étant égale à celle du mélange. Pour être plus précis, voici ce qui se passe sur le plan physique. La pression dite partielle de l'eau dans l'air ne peut excéder sa pression de saturation à une température donnée. Mathématiquement, cela s'exprime par la relation PI égale XIP, P étant la pression totale et XI la fraction molaire du constituant I. Pour l'eau, on a donc pH2O égale XH2O P. La condition de condensation s'écrit donc pH2O égale XH2OP inférieur ou égal à PVS de T, ou bien XH2O inférieur ou égal à PVS de T sur P. L'humidité relative epsilon brièvement introduite plus haut est précisément définie comme le rapport de la pression partielle de l'eau à sa pression de vapeur saturante. L'humidité relative est égale à 1 ou 100% lorsque la vapeur commence à se condenser, sinon elle est inférieure à 1. La masse de vapeur contenue dans l'air se traduit par une pression partielle de vapeur d'eau. Si, à la température ambiante, cette pression excède celle donnée par la courbe de saturation, il y a condensation de la fraction de vapeur en excès. Cette figure représente le diagramme dit psychrométrique de l'air humide, sur lequel apparaissent les courbes d'isohumidité relative de 10% en 10%, la courbe supérieure correspondant à la saturation. Dans ce diagramme, la température ambiante, dite sèche, est portée en abscisse et l'humidité spécifique W en ordonnée. À la température de 30 degrés Celsius et à la pression atmosphérique, si l'air contient une humidité absolue de 0,02 kg par kg d'air sec, soit 20 g d'eau par kg d'air sec, l'humidité relative epsilon vaut 74,4%. Nous nous contenterons de montrer ce diagramme à titre d'illustration, sans l'expliquer en détail, car cela déborderait du programme de ce cours. Une piste d'approfondissement vous donnera des indications complémentaires si vous le désirez. Reprenons l'exemple de la cocotte minute que nous avons évoqué plus haut. En fonctionnement normal, sa température intérieure est voisine de 110 degrés Celsius. La vapeur qui s'échappe à température élevée, se refroidit progressivement au contact de l'air ambiant avec lequel elle se mélange. Jusqu'à 1 ou 2 cm au-dessus de la buse, le jet ne contient que de la vapeur, invisible, puis le mélange saturé en eau commence à se condenser, formant un brouillard de micro-gouttelettes d'eau, parfaitement visible. Ce brouillard s'évapore ensuite lorsqu'il se mélange avec l'air sec éloigné de l'autocuiseur. Le même phénomène se manifeste à l'échappement des turboréacteurs des avions volant à haute altitude. Il explique les traînées blanches qui signalent leur passage et disparaissent au bout d'un certain temps, l'eau condensée se vaporisant lorsque les conditions de saturation ne sont plus réunies. La formation des nuages relève de la même logique. Elle résulte du refroidissement d'un volume d'air jusqu'à la condensation d'une partie de sa vapeur d'eau. Si le processus de refroidissement se produit au sol, par exemple par contact avec une surface froide, on assiste à la formation de brouillard. La condensation qui apparaît en hiver sur les vitres d'un logement ou d'un véhicule provient elle aussi du franchissement du seuil de saturation de l'air humide à proximité immédiate de la surface froide. La rosée matinale sur les plantes traduit le même phénomène. L'eau contenue dans l'air humide peut aussi directement se condenser à l'état solide si la température est suffisamment basse, ce qui explique la formation de la neige, ainsi que celle du givre dans les réfrigérateurs ou sur les pelouses. Les canons à neige employés par les stations de ski utilisent ce phénomène. Nous espérons que ces explications vous ont convaincu de l'existence et de la matérialité de la vapeur d'eau, même si elle n'est généralement pas directement perceptible. Il est fondamental en effet que vous n'ayez aucun doute à son sujet si vous voulez étudier dans de bonnes conditions les cycles thermodynamiques à fluide condensable.